You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Les grands titres de ce dimanche. En Australie, le contrat du présentateur de la radio 2GB, Alan Jones, sera résilié s'il continue à faire des remarques offensives à l'antenne. Le ministre australien de l'Éducation met en garde les universités de se diversifier alors que l'Australie continue d'accueillir des étudiants internationaux. Et en rugby, la victoire écrasante et impitoyable des All Blacks contre les Wallabies, 36-0 à Auckland hier pour la Bledisloe Cup. Les patrons du présentateur controversé Alan Jones lui ont averti de ne pas faire des remarques offensives à l'antenne. On reproche à Alan Jones d'avoir suggéré au Premier ministre australien Scott Morrison, je cite, « d'enfoncer une chaussette dans la gorge de la dirigeante néo-zélandaise Jacinda Ardern ». Fin de citation. Le présentateur de 2GB s'est excusé pour ses propos, mais Macquarie Media a déclaré que s'il continuait à utiliser un langage inapproprié, il perdrait son emploi. Un homme est décédé à Sydney après une confrontation avec la police hier soir. La police de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré avoir été appelée dans une maison située sur les plages du nord de la ville après des informations faisant état d'un incident de violence domestique. Il est allégué qu'un homme armé d'un fusil de chasse l'a pointé vers la police. La police a tiré ensuite sur ses jambes et il est mort par la suite. Une enquête a été ouverte concernant le décès de cet homme de 53 ans. Julie Boone, assistante commissaire de police par intérim, explique sur ce qu'il s'est passé.
So the three police attending were from Northern Beaches Police Area Command. It was a car crew and a supervisor. It's my understanding that family members called the police to the scene.
Le ministre australien de l'Éducation recommande aux universités de ne pas trop compter sur les étudiants étrangers financièrement, mais de saluer la diversité sur les campus. Certains députés de la coalition se sont inquiétés de l'ingérence étrangère dans l'enseignement supérieur, y compris en provenance de Chine. Le ministre Dan Tehan a déclaré sur Sky News qu'il soutenait les étudiants internationaux dans l'enseignement supérieur, mais que les universités ne doivent pas trop dépendre de ces étudiants. Il souhaite que davantage d'étudiants internationaux s'inscrivent dans les universités régionales.
Well, obviously we've seen incredibly strong growth from India. We've also seen incredibly strong growth from Nepal. So the sector is looking to diversify. Latin America has been an area where we've also seen growth in student numbers. So I think the sector is aware of the need to diversify.
Les Australiens rendent hommage ce dimanche pour marquer le 53e anniversaire de la bataille de Long Tan au Vietnam, l'un des combats les plus difficiles impliquant des soldats australiens où il y a eu 18 morts et plus de 20 blessés. Ce dimanche marque également la journée des anciens combattants du Vietnam en souvenir des 60 000 Australiens qui ont servi durant cette guerre. Le Premier ministre fidjien, Frank Bainimarama, a accusé le Premier ministre australien Scott Morrison d'avoir insulté les dirigeants des nations insulaires du Pacifique lors du sommet régional de cette semaine. Il a déclaré que les fonctionnaires chinois étaient plus diplomates dans leurs propos. Ces commentaires interviennent après que le Forum des îles du Pacifique ne soit pas parvenu à un accord sur de nouveaux engagements fermes en matière de changement climatique. Le Premier ministre fidjien a déclaré que Scott Morrison avait tenté d'imposer de force les politiques de son pays à d'autres pays et les avait insultés en disant combien d'argent l'Australie avait donné à la région. Historiquement, l'Australie et les États-Unis ont exercé une influence non contrôlée sur le Pacifique, mais la montée de la Chine remet tout en question. La sénatrice du Parti travailliste, Penny Wong, écrira à la ministre australienne des Affaires étrangères pour demander des briefings d'informations sur la Chine afin que tous les députés soient conscients de la complexité de la situation. Penny Wong souhaite que tous les parlementaires soient informés de la relation entre l'Australie et la Chine afin de minimiser les commentaires des députés, des backbenchers. La sénatrice Penny Wong a déclaré sur l'ABC qu'il était dans l'intérêt national de l'Australie de tenir un débat informé et elle a exhorté les chefs de la coalition libérale à prendre en charge la situation.
We are at a point where the relationship is more complex, also more consequential, it matters to us, and we should have a much more sensible and mature discussion about how we make it work for us.
Les manifestants anti-gouvernementaux à Hong Kong ont juré de continuer à manifester après une manifestation essentiellement pacifique tenue hier samedi. Les enseignants vont participer au rassemblement de ce dimanche et une foule plus importante est attendue également ce dimanche. Pour les dernières nouvelles de Hong Kong, reportage de Stéphane Lagarde pour Radio France Internationale.
Cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le proclamant publiquement. Les déclarations des milieux d'affaires se suivent et se ressemblent ces dernières heures à Hong Kong. Mania de la finance et grands patrons d'entreprise appellent unanimement à la fin des violences. Il faut que ça cesse, c'est aussi le message délivré vendredi par l'homme le plus riche de la région administrative spéciale, le roi de l'immobilier Li Ka-shing, se fendant à 91 ans d'une annonce dans les journaux invitant ses concitoyens à aimer le territoire et la Chine. Un message repris encore par les géants mondiaux de l'audit KPMG, Ernst & Young, Deloitte et PricewaterhouseCoopers. Les quatre grands cabinets comptables ont écrit séparément au Global Times pour rappeler leur opposition à toute action mettant en cause la souveraineté nationale. Des déclarations après y avoir été fermement invités, le quotidien d'État affirmant que des membres de l'industrie et des internautes chinois, je cite, exhortaient ces mêmes cabinets à licencier leur personnel pro-émeute.
Et en Australie, un deuxième rassemblement en faveur de Hong Kong a eu lieu à Melbourne hier après que des manifestants se sont affrontés aux nationalistes chinois. Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées devant la Melbourne State Library hier en solidarité avec les manifestants de Hong Kong. Parmi eux se trouvaient des membres de la communauté Ouïghour de Melbourne ainsi que des groupes tibétains et vietnamiens. Certains ont été escortés hors du rassemblement par la police qui a renforcé sa présence à la suite des manifestations qui ont eu lieu vendredi soir. Et puis des centaines de manifestants pro-chinois sont descendus à la mairie de Sydney en chantant « Vive la Chine ». Le rassemblement organisé à Sydney était en opposition aux manifestations à Hong Kong et pour montrer le soutien à Beijing. De nombreux manifestants ont déclaré avoir assisté à l'événement pour soutenir leur pays d'origine, la Chine.
Yeah, we try to support the China. Yeah, Hong Kong belongs to China, and we're coming here to support the China.
Au Soudan, en Afrique, le Conseil militaire et la contestation signent l'accord de transition pour ramener le pouvoir aux mains des civils. Précision de Coralie Pierret pour RFI.
Au Friendship Hall de Khartoum, la cérémonie commence au son de l'hymne national. La joie au Soudan, lit-on sur les banderoles dans la salle. Des chefs d'État et de gouvernement de la région sont présents, aux côtés des deux médiateurs de la crise, le Premier ministre éthiopien et le président de la Commission de l'Union africaine. Finalement, Mohamed Hamdan Daglo, le numéro 2 du Conseil militaire, et Ahmed Al-Rabi, le fer de lance de la contestation, signent le document. Un accord conclu début août, après plus de 200 jours de contestation sociale et politique et 250 morts. Un document que n'ont pas signé les groupes rebelles des régions du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan. Ils avaient soutenu la contestation mais rejeté cette déclaration constitutionnelle. Une absence qui n'inquiète pas le chef de l'opposition soudanaise. Cette journée aboutira à la paix et au changement démocratique par le biais d'élections libres, déclare-t-il. Le Conseil de la souveraineté prendra ses fonctions ce dimanche, un organe exécutif composé de civils et de militaires.
En Italie, au large de Lampedusa, le navire Open Arms attend toujours l'autorisation de débarquer dans le port de l'île sicilienne. À bord, 134 migrants, dont 27 migrants mineurs non accompagnés qui ont été autorisés à débarquer. Reportage Carlotta Matteo pour RFI.
C'est à contre-cœur, a déclaré Matteo Salvini, à contre-cœur qu'il a autorisé le débarquement à Lampedusa de 27 mineurs non accompagnés. Ils ont entre 15 et 17 ans, selon l'ONG Open Arms, qui a posté des images de leur départ du bateau, où on les voit verser une larme en quittant leur compagnon de voyage et embrasser les membres de cet équipage qui les a secourus, nourris et soignés depuis 16 jours. Ces jeunes sont en majorité des Érythréens et des Soudanais et ont immédiatement été conduits au hotspot de l'île. Un dénouement dû à Giuseppe Conte, le président président du Conseil italien, qui a écrit pour la deuxième fois en deux jours une lettre à son ministre de l'Intérieur. Réponse de Matteo Salvini, cette décision est un dangereux précédent. Selon lui, en 16 jours, le bateau aurait tranquillement pu arriver chez lui, en Espagne. C'est une bataille politique, a-t-il ajouté, en expliquant que s'il obtempérait à son chef de gouvernement, c'était par souci de loyauté, mais qu'il refusait d'en prendre la responsabilité. À bord de l'Open Arms, il reste encore 107 migrants rescapés. L'ONG espagnole qui a fait savoir aux principaux dirigeants européens qu'elle ne pourrait bientôt plus garantir leur sécurité et pourrait forcer l'entrée du port si nécessaire.
Journée très calme à Moscou hier, en marge des élections de septembre prochain. Ce n'était pas comme les autres samedis, marqués par plusieurs centaines d'arrestations. Les manifestants, je rappelle, réclament des élections honnêtes. Reportage Jean-Didier Revoin pour RFI.
Une multitude de drapeaux rouges flanqués de la faucille et du marteau flottait au-dessus des 4 à 5 000 participants au meeting du Parti communiste sur l'avenue Sakharov, une avenue bien clairsemée, une semaine après que 50 000 moscovites ont répondu à l'appel des libéraux. Pavel Lavintaine a son explication.
L'électorat du Parti communiste de la Fédération de Russie diminue naturellement. Ils meurent en raison de leur âge. Et la jeune génération ne soutient pas les communistes.
Si le Kremlin entendait faire baisser les rangs de l'opposition libérale en utilisant les communistes, c'est un échec malgré l'enthousiasme des militants du parti, comme Tatiana.
Je suis contre la politique du gouvernement, contre les élections frauduleuses, parce que c'est insupportable de juste attendre et regarder ce fouillis, ces actes abominables. Chaque homme décent et honnête doit agir de cette manière.
L'opposition libérale s'est elle aussi montrée plutôt discrète. La mairie de Moscou avait interdit tout rassemblement, raison pour laquelle, conformément à la loi russe, quelques protestataires se sont munis d'une pancarte en prenant soin d'observer entre eux une distance de 50 mètres, sous l'œil attentif de la police. Mais la mobilisation de ces dernières semaines n'était pas au rendez-vous, les opposants attendant sans doute d'autres manifestations à venir d'ici les élections de septembre.
L'hommage maintenant à Peter Fonda, qui s'est éteint à Los Angeles à l'âge de 79 ans. Il était devenu célèbre pour son rôle dans le film culte Easy Rider, un symbole de la contre-culture américaine. Sébastien Duhamel et Lubna Anaki pour RFI.
Les guitares de Born to be Wild, les motos du film Easy Rider et une image gravée dans les mémoires, celle de l'acteur Peter Fonda à cheval sur sa Harley Davidson aux couleurs du drapeau américain. La légende d'Hollywood s'est éteint vendredi à Los Angeles à l'âge de 79 ans. L'acteur souffrait d'un cancer des poumons, plusieurs fois nommé aux Oscars. Easy Rider l'avait fait entrer à jamais dans l'histoire. Son portrait par notre correspondante Lubna Anaki.
Pour des générations entières de cinéphiles, il restera à jamais Wyatt. Avec ses lunettes de soleil, son blouson de cuir avec un drapeau américain cousu sur le dos, un Captain America version années 60. Easy Rider, sans doute le film est le rôle le plus emblématique de la carrière de Peter Fonda. Un film qu'il a lui-même coécrit avec Dennis Hopper et Peter Southern. Tourné en seulement 7 semaines avec un petit budget, le film sorti en 1969 célèbre l'esprit libre, rebelle et anti-système de la génération Woodstock. Fils du célèbre acteur Henry Fonda et petit frère de Jane Fonda, Peter se démarque très vite par des rôles anticonformistes. Il devient l'un des visages de ce nouvel Hollywood qui casse les codes et où tous les films n'ont pas forcément une fin heureuse. En 1998, Peter Fonda reçoit un Golden Globe et une nomination aux Oscars pour son rôle dans L'Or de la vie de Victor Núñez. Avec plus d'une centaine de films, Peter Fonda est sans doute l'un des acteurs les plus emblématiques du cinéma américain. Son dernier film, The Last Full Measure, doit sortir en octobre prochain. Il y joue notamment aux côtés de Morgan Freeman et Laurence Fishburne. L'acteur s'est éteint hier à 79 ans des suites d'un cancer des poumons. Sa famille a souhaité rendre hommage à sa passion pour la vie en invitant ses admirateurs à lever un verre à la liberté.
Et maintenant, on passe à la météo en Australie. Perth maximale de 17 degrés, Adélaïde 13, Melbourne 17, Hobart 17 également, Canberra 20 degrés, Sydney 23, Brisbane 25, Cairns 28, Darwin 31 et à Alice Springs maximale de 17 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. En Australie, le contrat du présentateur de la radio 2GB, Alan Jones, sera résilié s'il continue à faire des remarques offensives à l'antenne. Le ministre australien de l'Éducation met en garde les universités de se diversifier alors que l'Australie continue d'accueillir des étudiants internationaux. Fin du journal. Merci de rester avec nous pour la suite.
programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.